Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 15 octobre.
Il fallait débarquer, il fallait démolir tout ce qu'on avait devant nous. J'ai fait 10 mètres sur la plage. Et au bout de 10 mètres, je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. On retrouvait des choses aussi bêtes que le chant des grillons dans la nuit. Et tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, c'est la France.
Et la France, elle va rendre hommage cet après-midi aux Invalides, à Hubert Germain, dont vous venez d'entendre la voix, le dernier des 1038 compagnons de la Libération. Ces jeunes de 20 ans qui, en juin 40, ont répondu à l'appel du général de Gaulle, qui se sont battus pour une certaine idée de la France. C'est une page cruciale de notre histoire qui va se tourner et cela soulève une question. Comment transmettre désormais cette mémoire maintenant que les compagnons se sont tués à jamais? On posera la question à 6h10 au délégué national de l'Ordre de la Libération et ami d'Hubert Germain, le général Christian Baptiste. Tout autre sujet,
oui, Omblin,
un salon pas comme les autres va se tenir ce week-end à Paris.
Oui, le premier salon français du CBD, entièrement dédié aux professionnels. Le CBD ou cannabidiol, surnommé le chanvre bien-être, est un dérivé du cannabis dépourvu de THC, une substance psychotrope interdite en France. Et contrairement au THC, la principale molécule active du cannabis, considérée comme un stupéfiant, et bien consommer du CBD ne provoque pas d'effet d'euphorie, d'angoisse ou d'addiction. La vente de produits à base de CBD comme des huiles, des infusions est autorisée en France depuis le 23 juin dernier. Le cannabidiol a-t-il des vertus thérapeutiques? Existe-t-il des contre-indications, voire des dangers? Eh bien, c'est ce que nous verrons à 5h40 avec le psychologue clinicien spécialiste des questions d'addiction, Jean-Pierre Coutron.
Et puis un événement musical, le retour après 6 ans d'absence de la chanteuse Adèle.
Son 4e album sortira le mois prochain, mais un tout premier single vient d'être dévoilé. Écoutez, c'est tout chaud. Easy on Me, le nouveau titre d'Adèle. On l'écoutera en intégralité à 5h50 dans la prescription culture de Stéphanie Loire.
Voilà pour une partie du programme. On commence tout de suite avec la météo.
Bonjour Julien, bonjour,
bonjour
Omblin.
Anissa Haddadi.
Bonjour.
Un ciel un peu plus nuageux.
Oui, le bel anticyclone qui nous a protégés hier faiblit un petit peu. Donc bon, ce matin, ça va être difficile de faire mieux qu'hier. Hein. Donc ce matin, de la Manche à la Bretagne jusqu'à la Belgique, en passant par les Hauts-de-France, dans toutes ces régions, nous avons un ciel un petit peu plus couvert avec des petites averses. À l'est, encore des brouillards ce matin, en Alsace, sur le Val-de-Saône, l'Occitanie. Et puis dans la matinée, le temps sera bien plus sec et ensoleillé sur la moitié sud, avec un léger voile nuageux. Alors cet après-midi, c'est comme ce matin, c'est au nord de la Loire que le temps est un petit peu plus nuageux, avec quelques petites averses sur les Hauts-de-France, sur la moitié sud du pays, rien à signaler. Le soleil qui brille avec quelques passages nuageux mais sans aucune conséquence. Il fait frais encore ce matin, -1 au Puy-en-Velay à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Lyon et Strasbourg, 6 à Paris, 10 à Montpellier, 12 à Dunkerque. Cet après-midi, c'est exactement comme hier.
Merci Anissa Haddadi.
Un quart de siècle, ça y est. Incroyable, le coup de vieux.
Vous bougez pas. Hein.
Merci beaucoup, Omblin. Je vous donnerai mes petits secrets.
C'est gentil, Anissa. Merci. Place à l'info avec le premier journal de ce vendredi, il est 5h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Un an après la mort de Samuel Paty, le traumatisme toujours présent au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Élèves, parents et enseignants, tous sont encore meurtris par l'assassinat du professeur par un terroriste islamiste. Ce dernier a été abattu, mais les investigations continuent. Le point sur l'enquête dans un instant. Fini le tout gratuit, 7,5 millions de réfractaires au vaccin contre le Covid doivent maintenant passer à la caisse pour se faire tester. 22 à 45 euros. Quelles exceptions? Les détails dans ce journal. Et puis il a montré qu'il avait du ballon et un sens aigu de la communication. Emmanuel Macron a chaussé les crampons hier pour un match de foot au profit des pièces jaunes. Le chef de l'État s'est offert un but, une frappe ni trop à gauche, ni trop à droite. Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, est assassiné aux abords de son collège par un terroriste islamiste. Un attentat pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours. Un an plus tard, des hommages sont organisés dans les établissements scolaires français. Aujourd'hui, ce sera demain au collège du Bois d'Aulne où il est exercé. Marion Gauthier est retournée devant à la rencontre des élèves, parents et professeurs toujours traumatisés.
Ça fait une semaine que je dors pas bien, parce que j'y pense.
Les hommages à venir, comme un retour en arrière. Un an passé dans un état second, des malaises, l'impossibilité de suivre un cours d'histoire après ceux de Samuel Paty. Marie s'est relevée, mais elle replonge avec sa sœur et sa mère dans les souvenirs.
On sent quand même qu'il manque quelqu'un, surtout avec les profs, parce que avant ils parlaient, ils étaient beaucoup plus souriants que d'habitude. C'est plus pareil.
Au quotidien, un bruit suspect ou pas longtemps, il y a une voiture qui a flambé. Là, on sent que toute cette émotion et cette peur ressurgit.
Près du collège, le silence est demandé par les enseignants. Les élèves se pressent à la sortie, les yeux fixés sur leurs chaussures.
Ils ont essayé de faire oublier un peu l'histoire comme ils pouvaient.
Nicolas énumère pourtant les cellules psychologiques ou les rencontres avec des victimes du terrorisme qui ont marqué son année de troisième.
Mais après plusieurs mois, il n'y a plus rien, plus personne n'en parlait, à croire que tout le monde l'avait oublié alors qu'on le savait. Qu'on l'avait tous en mémoire.
Une douleur commune, impossible à exprimer. L'établissement réfléchit à changer de nom. Un buste de Samuel Paty pourrait être érigé dans la cour. Mais pour beaucoup, c'est trop tôt. Un an, c'est trop court.
Un reportage de Marion Gauthier.
Un an après, où en est l'enquête ?
Eh bien, le terroriste tué quelques minutes après l'attaque a juste eu le temps de revendiquer le crime. Conclusion funeste d'un terrible engrenage alimenté par certains parents d'élèves et amplifié par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les enquêteurs tentent d'identifier tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, poussé le terroriste à passer à l'acte. Gladys Lafitte, vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Un an après, 15 personnes sont mises en examen.
Oui, les enquêteurs les ont divisés en quatre cercles en quelque sorte. D'abord, ceux qui ont apporté une aide matérielle. Puis les collégiens qui ont pointé le professeur contre de l'argent. Troisième cercle, les personnes suspectées d'avoir encouragé le terroriste à passer à l'acte avec qui il échangeait virtuellement. Et enfin, les influenceurs. Le parent d'élève à l'origine de deux vidéos dénonçant les prétendues actions de Samuel Paty et Abdelhakim Sefrioui, le militant islamiste, accusé d'avoir facilité la définition d'un projet criminel selon les juges d'instruction, en contribuant à faire connaître l'identité du professeur. Mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste, ils sont en détention provisoire. Virginie Leroy est l'avocate de la famille de Samuel Paty.
L'instruction est complexe, le dossier est complexe, parce que voilà, on a quatre socles d'intervenants qui sont distincts et qui en même temps sont extrêmement imbriqués, parce que c'est tout cet engrenage qui amène à l'assassinat de Samuel Paty.
Des confrontations doivent encore avoir lieu. Les enquêteurs tentent aussi de décrypter certains messages échangés entre les différents protagonistes du dossier.
Merci Gladys Lafitte, journaliste au service police-justice d'Europe 1. Un homme de 51 ans interpellé et placé en garde à vue hier soir, principal suspect après la découverte mercredi soir du corps d'une femme de 77 ans décapitée chez elle à Agde dans l'Hérault. Il connaissait la victime.
Europe 1, il est 5h05 et ça y est, c'est la fin du quoi qu'il en coûte pour les tests. Ils sont désormais payants pour plus de 7 millions de Français.
Et ce sont tous ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Céline Géraud, on peut le dire, avec cette mesure, le gouvernement espère convaincre les derniers réfractaires.
Oui, car on le rappelle, même si plus des trois quarts de la population sont totalement vaccinés aujourd'hui, il reste 7,5 millions de Français qui ne le sont pas. 7,5 millions de personnes qui, pour aller au restaurant ou au cinéma, doivent présenter un pass sanitaire. Eh bien, pour cette population non vaccinée, ce test de confort sera désormais payant, de 22 à 45 euros selon le type de test. Une exception, en cas de symptômes, un non-vacciné peut être remboursé, mais seulement s'il est muni d'une prescription médicale de moins de 48 heures.
Alors si on comprend bien, Céline, les tests, ils restent gratuits pour tous les Français qui sont déjà vaccinés ?
Oui, et quelle que soit la situation, si vous avez des symptômes ou si vous devez voyager dans les pays qui exigent un test en plus du pass sanitaire, le test de dépistage ne vous coûtera rien. Dernière précision, les tests restent gratuits pour les personnes mineures ou non éligibles au vaccin. Enfin, les autotests réalisés sous la surveillance d'un professionnel de santé ne sont plus valables pour obtenir le pass sanitaire.
Et puis ce chiffre qu'Europe 1 vous révèle ce matin, le coût des tests depuis l'année dernière pour les finances publiques, 8,8 milliards d'euros.
Pas de passe sanitaire pour Emmanuel Macron hier après-midi, mais des passes décisives.
Et le président qui a chaussé les crampons et enfilé son maillot pour un match de foot au profit des pièces jaunes. En tout cas, sur le terrain, le président semblait très à l'aise, Cyril de la Morinerie.
Oui, dès la 8e minute, le président de la République, maillot numéro 3 dans le dos, prend ses responsabilités.
Pénalty, Emmanuel Macron s'apprête à le tirer. Et but !
Une frappe présidentielle plein axe que le gardien n'a sans doute pas osé arrêter. Emmanuel Macron a joué 75 minutes sans s'économiser, jamais débordé sur sa gauche et très tenace sur l'aile droite. même si, vu des tribunes, Pascal estime qu'Emmanuel Macron est encore perfectible balle au pied.
Pas beaucoup touché le ballon. Quand il l'a touché, il y a des fois où il l'a aussi un peu donné aux adversaires. C'est quand même lui qui sera aujourd'hui en photo dans les journaux. Hein.
En tout cas, le chef de l'État s'est appuyé sur ses coéquipiers.
Il faut jouer collectif pour gagner, en sport ou en politique.
Et notamment Rudy Garcia, qui l'a accompagné au milieu de terrain, même si la communication entre les deux hommes n'a pas toujours été simple.
Lui avait demandé dans le vestiaire, on l'appelle pas président, qu'on le vouvoie pas, etc. Mais j'avoue que c'est pas toujours facile de tutoyer son président.
Score final 6-1 pour l'équipe du président, un bel entraînement pour le match de 2022.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Et puis je précise qu'après cette rencontre, un chèque de 50 000 euros sera remis à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Kaboul. Du terrain de foot au terrain de la présidentielle, il n'y a qu'un pas et c'était joué d'avance. Anne Hidalgo, officiellement candidate du Parti Socialiste pour la présidentielle. La maire de Paris à la traîne dans les sondages, créditée de 4 à 7% d'intention de vote, a obtenu plus de 72% des voix des militants face à son unique challenge. L'ancien ministre de l'Agriculture et maire du Mans, Stéphane Le Foll.
On termine avec une idée de sortie en cette veille de week-end et avec des œuvres plutôt gonflées à la Cité de l'Architecture à Paris.
L'exposition Aérodream vient d'ouvrir avec Europe 1 jusqu'au 14 février 2022. L'événement présente uniquement des œuvres gonflables, des premiers ballons à air chaud aux dirigeables des frères Montgolfier. Des années 65 à aujourd'hui, mobilier, architecture éphémère, art, plus de 250 œuvres sont présentés lors d'Autriche.
Ils se sont servis de l'air pour créer des œuvres d'art. Les designers des années 60 imaginent une maison pneumatique, une guitare gonflable ou encore un bureau mobile installé dans une bulle que l'on peut déplacer n'importe où, par exemple au milieu d'un champ. Cela donne un univers ludique très coloré avec des objets gonflables jaunes, oranges, verts qui sont exposés à la Cité de l'Architecture. L'art gonflable se développe dans les années 60. C'est une manière de remettre en question l'architecture traditionnelle, détaille Frédéric Miguérou, le commissaire de l'exposition.
C'est un mouvement qui va accompagner les mouvements alternatifs hein, de libération, de critique, donc l'idée de nomadisme, l'idée de libération sexuelle, l'apparition de la musique rock, l'expérience de la drogue aussi, font du gonflable une espèce d'univers, disons, nouveau, qui incarne un peu toutes ces valeurs.
Le gonflable est moins utilisé vers la fin des années 70, après la crise économique et pétrolière qui marque un tournant et la fin de cette période utopique.
Lors d'Autriche et puis l'exposition Aérodream, c'est avec Europe 1 à la Cité de l'Architecture à Paris sur la place du Trocadéro. Les billets sont à partir de 9 euros.
C'est noté. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09 sur Europe 1 et c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses ce soir en nocturne à Vincennes et mon pari gagnant sera le 107 Eric The Hill. Ce trotteur danois titulaire de bonnes performances chez lui n'a pas tardé à s'adapter aux courses françaises comme le prouve ses dernières sorties à Vincennes et en province, où il a su aligner 2 victoires et de nombreuses places. Absent depuis le 11 septembre, faute d'engagement, je sais que son entraîneur a fait en sorte de l'amener à 100% pour cet objectif. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 7, Eric The Hill.
Eric The Hill, merci Thierry Léger. Vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Excellent réveil sur Europe 1. On revient tout de suite avec le pressing.
C'est votre revue de presse avec au menu ce matin. Comment choisir ses numéros pour jouer à l'Euromillion ? Les ratés de la nouvelle carte d'identité et les chauffeurs VTC se font attendre. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue, excellent vendredi, 5h11, c'est l'heure d'ouvrir les journaux et pour votre pressing, nous sommes 3 autour de cette table, avec aussi Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux qui pour la plupart publient le visage de Samuel Paty, un an après l'assassinat de ce professeur par un terroriste islamiste. La France, toujours sous le choc, titre Le Figaro. Les profs qui ont peur, les profs qui résistent, peut-on lire à la une d'aujourd'hui en France. Un tourment dans l'enseignement, analyse 20 minutes. Continuez, conclut sobrement Libération, continuez le combat de Samuel Paty contre l'obscurantisme. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous choisi ?
Question classique, quand on parle de l'euro-million, que feriez-vous avec 220 millions d'euros ?
Beaucoup de choses.
Alors moi,
tout ça,
C'est préparé depuis des années.
Ça y est, vous l'avez écrit quelque part.
Le comptable est au courant. Clairement, j'attends plus que l'argent.
Voilà, vous avez beaucoup de projets. Comme beaucoup, on est tous un peu dans ce cas-là. On attend 220 millions d'euros. C'est quand même le sacré jackpot mis en jeu ce vendredi. Le Parisien, aujourd'hui en France, se penche sur les fameuses grilles de numéros. Savez-vous combien il y en a en tout?
Une cinquantaine.
Voilà, il y a 50 numéros et 12 étoiles. 62 donc, si on fait le compte. Vous choisissez 5 numéros sur les 50 et 2 étoiles. Voilà, il faut donc cocher 7 cases. Alors, comment les choisir? Eh bien, c'est la question épineuse que pose Le Quotidien ce matin. Est-ce que vous êtes plutôt un joueur flash, comme 40% des grilles qui seront validées d'ici ce soir? Vous savez, flash, c'est le remplissage automatique et aléatoire par la machine.
C'est mon cas.
C'est le mien aussi.
Ah non, moi j'ai mes numéros fétiches.
Vous avez vos numéros fétiches. C'est quoi? La date de naissance de vos enfants, de votre labrador,
mais...
Le 10 de Zidane?
Exactement.
Le 23 de Michael Jordan? Oh, ou peut-être un numéro avec une signification mystique, le 7, le 3, le 6,
13.
Voilà, le 13. L'étage de votre appartement. Bref, vous avez une combinaison multiple pour cela. Certains croient qu'on a plus de chance avec un tirage flash. D'autres n'imaginent pas une seule seconde ne pas être maître de leur destin. Alors, on va essayer de mettre tout le monde d'accord. Que ce soit vous ou la machine, les chances sont toutes les mêmes pour toutes les combinaisons. 1 sur 139 millions. Voilà, je joue les rabat-joie ce matin. Mais quand vous jouez les mêmes numéros depuis des années, pas question d'en changer. Imaginez qu'ils tombent. L'angoisse.
C'est que vous n'avez pas joué. Non, mais ça, c'est, voilà. J'y réfléchis aussi.
Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger de numéro. On sait qu'on va perdre, dit Vincent dans Le Parisien. Alors oui, d'accord, bon. Mais l'euro million, c'est s'offrir un petit peu d'espoir, finalement. L'espoir, quand même, de repartir avec le pactole. 220 millions d'euros, je le répète, ils seront répartis, quoi qu'il arrive, entre les gagnants du rang le plus élevé, c'est-à-dire ceux qui trouveront 5 bons numéros et une étoile. Voilà, au moins une chance sur 7 millions. Oui, c'est pas beaucoup. Et ça ne va pas empêcher, en tout cas, les millions de Français de valider une ou plusieurs grilles aujourd'hui. Voilà, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Si vous n'avez pas d'idée pour choisir les numéros, cet article va peut-être vous aiguiller.
Évidemment.
Eh ben oui. Ah oui, avec...
Par ici, les pépettes. Merci beaucoup, Ombline, et on
plaisir.
Souhaite à tous bonne chance, évidemment. Martin, quel article avez-vous retenu?
Alors, est-ce que vous avez changé votre carte d'identité, Ombline, Julien?
Oui, mais alors, juste pas avant, la bonne est arrivée.
Donc, vous avez
encore
l'ancienne.
J'ai encore l'ancienne, la nouvelle est arrivée juste après.
Parce que depuis le 2 août dernier, donc vous pouvez demander sur tout le territoire la toute nouvelle carte d'identité, un format carte bancaire, comme le nouveau permis de conduire. Plus petite, donc plus sécurisée aussi, avec une puce électronique intégrée. Elle était censée répondre à tous les besoins des Français. Sauf que ces concepteurs ont oublié un petit détail. Elle est tellement petite que certains noms de communes ne peuvent plus y figurer. C'est le cas dans le village de... Alors attends, je vais prendre un peu mon élan. De Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, c'est dans la Somme. Plusieurs habitants ont vu leur demande de carte d'identité retardée en préfecture. La raison, les 38 caractères du nom de leur commune ne tiennent plus sur le nouveau format. C'est le courrier Picard qui a révélé ce bug administratif. Une négligence qui peut faire sourire, mais qui peut aussi avoir des conséquences assez désagréables, comme pour ce jeune habitant. Il voulait passer son code de la route, mais impossible sans carte d'identité. Il a donc dû repousser son examen à plusieurs reprises.
Ah oui.
Alors, Saint-Quentin-la-Motte n'est pas la seule commune concernée. Petit tour de France des communes au nom à rallonge. Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genest et Isson dans la Marne. Saint-Germain-de-Taillevande, la Lande, Vaumont dans le Calvados. Oui. Ou encore...
Elle est belle celle-là.
Beaujeu, Saint-Vallier, Pierre-Jus et Quitteur dans la Saône-et-Loire. Ah. Alors, vous allez où ce week-end hein?
Par là. Le deuxième.
Pareil.
En tout, un journaliste des Échos a recensé 47 communes dont les noms dépassent les 30 caractères. C'est la limite fixée sur la nouvelle carte. Alors, du côté de l'Agence nationale des titres...
Souvent, ce sont des agglomérations de communes, c'est des communes qui se regroupent.
J'y viens.
Autant
alors,
pour moi.
Du côté de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'instance qui gère les pièces d'identité, on assure que des consignes ont été passées aux préfets et aux maires, notamment pour abréger les sains et les sûrs. Mmh. Selon eux, le problème vient, vous en parlez, Julien, à l'instant, des fusions de communes de plus en plus nombreuses. Très souvent, pour ne froisser personne, elles gardent les deux noms, ce qui entraîne des noms évidemment beaucoup plus longs. Mais rassurez-vous, une solution définitive est en passe d'être trouvée. Les lignes de la commune et du pays vont être fusionnées, de quoi passer à 49 caractères et non plus 30.
Ouf.
Et permettre aux habitants de Saint-Quentin-la-Motte de passer leur permis sereinement. La nouvelle carte d'identité est trop petite pour les communes aux noms trop longs, parce que c'est ça la vraie question que ça pose. Est-ce que c'est la carte qui est trop petite ou les noms qui sont trop longs? C'est à lire sur le Huffington Post.
Merci beaucoup Martin. Une question, est-ce qu'il vous arrive de commander un chauffeur VTC?
Bah tous les matins.
Bah oui,
ah, mais
ça c'est
vrai.
Très souvent.
C'est vrai que vous venez avec un chauffeur VTC le matin. Alors vous avez sûrement remarqué que
la
le
nuit.
Temps d'attente pour obtenir une course a considérablement fortement augmenté depuis la reprise d'activité en mai dernier et la levée du dernier confinement. Quelle que soit l'application, le service utilisé, il n'est pas rare de devoir attendre jusqu'à 20 minutes avant qu'un chauffeur accepte de vous faire monter dans sa voiture. Le contraste est particulièrement flagrant à Paris intramuros où, avant la pandémie, vous en souvenez, les commandes étaient validées en un éclair.
Alors, j'imagine que c'est parce que de nombreux chauffeurs ont abandonné la profession avec la crise, non ?
Eh bien non, a priori, c'est ce que nous explique cet article du Figaro. La grande majorité des chauffeurs a repris le travail, assure Uber, Bolt ou encore Freenow. En fait, les raisons de ces attentes prolongées sont à chercher du côté des nouvelles pratiques des chauffeurs. Ils sont de plus en plus à refuser les courses jugées trop petites de moins de 10 ou 15 euros, préférant attendre qu'une plus alléchante leur soit proposée par la plateforme. C'est la conséquence d'une loi adoptée fin 2019 qui permet aux conducteurs d'être informés du trajet et du prix de la course avant qu'ils choisissent oui. s'ils l'acceptent ou s'ils la refusent.
Ils ne la voyaient que quand vous montiez dans le taxi,
absolument.
L'adresse où vous alliez.
Absolument, et c'était l'une de leurs revendications. Ils ont été entendus là-dessus. D'autant qu'avec le développement du marché et l'apparition de nouveaux services, les chauffeurs ont désormais deux, voire trois téléphones à l'intérieur de leur voiture, ce qui leur permet d'être connectés à une application différente à chacune des applications pour sélectionner les meilleures courses. Certains vont même jusqu'à accepter une course pour finalement l'annuler au profit d'une autre plus lucrative, ce qui force le client à commander une nouvelle fois dans l'espoir qu'on accepte enfin de l'amener à bon port. Uber et les autres ont beau menacer les conducteurs indélicats de les bannir, rien n'y fait. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui que les conducteurs peuvent prendre ce risque. Et puis, le prix n'est pas le seul critère. Les difficultés de circulation pèsent également dans la balance. Les chauffeurs évitent sciemment les secteurs où les bouchons s'accumulent. Et à Paris, c'est même toute la ville qui est de plus en plus snobée depuis l'abaissement de la vitesse à 30 km/h. Résultat, de plus en plus de VTC préfèrent désormais les courses de banlieue à banlieue.
Et je crois que ces péripéties sont arrivées à plusieurs d'entre nous
oui,
hein,
oui,
dans
c'est
cette
très,
maison.
Très désagréable à 2h du matin de se faire annuler son VTC,
oui,
je vous assure.
Surtout d'annuler une fois, puis deux fois, puis trois fois. Et en fait, c'est le quatrième qui arrive, ça fait 20 minutes.
Et au final, on prend un taxi.
Et au final, vous prenez un taxi. Voilà, beaucoup.
Et on met trois mois à se le faire rembourser.
Voilà, le message est passé. Merci beaucoup pour tout le monde d'ailleurs. Le message aussi pour les chauffeurs VTC. Prenez les cours, s'il vous plaît. Et on termine ainsi le pressing. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Martin. On vous retrouve dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
Oui, pour le journal des sports, c'était Martin Lange avec nous sur Europe 1. Et il est 5h19.
Bah oui, et c'est les principaux titres de ce vendredi. Avec Alban Leprince, on vous écoute Alban.
Les établissements scolaires rendent hommage à Samuel Paty. Aujourd'hui, ce professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Près d'un an après, 63% des jeunes estiment que la laïcité est en danger, selon un sondage IFOP publié hier. Interpellation et placement en garde à vue hier soir d'un homme de 51 ans après la découverte avant-hier soir du corps d'une femme de 77 ans décapitée dans sa maison à Agde dans l'Hérault. Le suspect connaissait la victime. Ils nous ont coûté 8,8 milliards d'euros depuis l'année dernière. Alors aujourd'hui, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Les tests PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement remboursés à partir d'aujourd'hui. 22 à 45 euros pour un test de confort. Les personnes vaccinées ne sont pas concernées. Et puis un hommage militaire cet après-midi aux Invalides pour Hubert Germain, le tout dernier compagnon de la Libération, décédé mardi à l'âge de 101 ans. Son inhumation se déroulera le 11 novembre au Mont-Valérien.
Merci beaucoup, Alban Leprince. Prochain point sur l'information d'ici 10 minutes sur Europe 1. Il est 5h20. Très bon réveil à tous avec à présent les initiatives
non,
en France.
On a un petit problème technique, donc on va passer à la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler, Ombline, de votre interview à 5h40?
Oui, c'est une interview extrêmement intéressante d'un psychologue clinicien qui nous parlera du CBD, puisque figurez-vous qu'en France, pour la première fois à Paris, va se tenir le premier salon du CBD. Donc c'est un salon professionnel, hein, le Chanvre du Bien-être. Pour rappel, le CBD, c'est ce dérivé du cannabis sans THC, donc sans cette molécule considérée comme un stupéfiant qui est présente dans les plants de cannabis. Et donc il va nous parler, ce psychologue clinicien qui s'appelle Jean-Pierre Coutron, des bienfaits, s'il y en a, du CBD sur la
des
santé.
Des risques éventuellement.
Des risques éventuellement, mais alors les risques sont assez mesurés puisque c'est une molécule du CBD qui est plutôt une molécule de bien-être, qui est un anti-stress et qui permet de moins angoisser. En fait, ça peut faire l'effet après une course. Alors, lorsque vous faites une course à pied et que vous courez 20, 30, 40 minutes, vous ressentez du bien-être après la course. Et bien le CBD peut procurer tirer cet effet. Évidemment, ça ne s'adresse pas à toute la population. On évite de procurer du CBD aux enfants. Donc les risques, c'est quoi? C'est quand on est trop jeune, quand on peut avoir certaines maladies. Mais dans ce cas-là, il faut demander conseil à son médecin. Et évidemment, c'est que cette molécule est autorisée à la vente en France. Rendez-vous à 5h40.
Bah oui.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Révolution culturelle et religieuse à Cologne. La municipalité autorise l'appel du muezzin tous les vendredis. Les 35 mosquées de cette ville allemande pourront appeler leurs fidèles à la prière. Il est de retour un mois et demi après la présentation du plan Marseille en grand. Emmanuel Macron revient dans la cité phocéenne. Un déplacement de deux jours pour vérifier l'avancement des projets lancés. Dans ce journal, la fin d'un suspense qui n'en est plus vraiment un. Anne Hidalgo sera bien la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle. Et puis le succès du MMA ne se dément pas. Un an après son autorisation en France, ce sport de combat qui mêle plusieurs arts martiaux séduit de plus en plus le grand public. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Son chant ne résonne pas encore dans les rues de Cologne, mais ce sera bientôt le cas. Le muezzin pourra appeler les fidèles. La mairie a donné son accord au nom de la liberté religieuse. Une révolution pour cette ville. Quand on arrive dans la capitale rhénane, la première chose que l'on voit, c'est cette immense et majestueuse cathédrale dont les cloches accompagnent nos pas. Désormais, le vendredi, on entendra aussi l'appel à la prière pour les musulmans. Cela concerne 35 mosquées, même si 3 pour l'instant se sont montrés intéressés. Reportage à Cologne de notre correspondante en Allemagne, Mélina Fachin.
Pour l'instant, l'appel à la prière ne retentit que dans l'enceinte de la grande mosquée de Cologne, mais bientôt, c'est ce que pourront entendre les habitants du quartier dans leur rue via des haut-parleurs. Plutôt habitués aux cloches de l'église, cela ne leur pose toutefois globalement pas de problème.
Je suis pour la liberté des religions. Entendre les cloches sonner, pour moi, c'est la même chose que d'entendre le muezzin chanter.
À certaines conditions quand même.
J'aimerais bien que ce ne soit pas trop fort et en allemand.
Alors l'appel à la prière se fera bien en arabe, mais il y aura des règles. Ce ne sera que le vendredi, entre midi et 15h, 5 minutes maximum et sans dépasser un certain volume. Chaque mosquée va en discuter avec ses voisins. Pour Mustapha, imam de la grande mosquée, pas de quoi créer une polémique.
Les gens ici sont très ouverts. Porter notre voix à l'extérieur, on accueille ça avec beaucoup de joie.
Dans les faits, le chant du muezzin ne résonnera pas tout de suite dans la ville. Chaque mosquée va d'abord devoir demander une autorisation à la mairie. Et pour l'instant, seuls 3 sur 35 se sont manifestés. Cologne, Mélina Fachin, Europe 1.
Et cet appel à la prière est déjà une réalité dans d'autres villes voisines de Cologne, hein, comme Düren ou Münster. La piste terroriste reste privilégiée en Norvège après l'attaque à l'arc qui a fait 5 morts et 2 blessés. L'homme interpellé, un Danois de 37 ans, était converti à l'islam et suspecté de radicalisation. Le Liban s'enfonce toujours un peu plus loin dans le chaos économique et social. Le spectre de la guerre civile refait surface après une manifestation qui a fait au moins 6 morts hier à Beyrouth. Les manifestants dénoncent la façon dont le juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth mène ses investigations.
Retour en France, il est de retour à Marseille, un mois et demi après l'annonce de son plan d'investissement pour la ville. Emmanuel Macron revient sur la Canebière.
Le chef de l'État vient surveiller l'avancée de son plan Marseille en grand, 1,2 milliard d'euros destinés à moderniser et rénover une ville touchée par la paupérisation. Il y a urgence, notamment dans les écoles dont la vétusté est montrée du doigt depuis plusieurs années. Les Marseillais ne veulent plus attendre. Reportage de notre correspondant Stéphane Burgat.
Pas de temps à perdre, selon Pierre-Marie Ganosi, l'adjoint au maire, les tractopelles sont déjà à l'œuvre, exemple à l'école Saint-Louis.
Là, le projet est lancé, on a créé une école provisoire rapidement en Algeco, on est à peu près à 16 millions de travaux ici.
Et quelle sera la participation de l'État? 50-50, espère cet élu, mais Emmanuel Macron n'a toujours rien annoncé et le corps enseignant s'impatiente, selon Virginie Akliwat du syndicat SNES-FSU.
Dépêchez-vous, la situation est urgente, il est vraiment maintenant temps de concrétiser les choses. L'investissement de l'État va déterminer le calendrier. En plus l'État va mettre d'argent et plus les travaux vont pouvoir se faire rapidement.
D'autant qu'il y a urgence à agir dans certaines écoles, déplorent les parents comme à Saint-Barthélemy dans le nord de la ville.
À cause des rats, mi-septembre, on avait fermé la maternelle pendant une semaine passée. Ils avaient niché dans les placards, ils ont retrouvé des cadavres de rats morts. Ah oui, moi j'aimerais que ça soit refait au plus vite.
Mais au total, 174 écoles sont à reconstruire, à agrandir ou à rénover. Alors d'ici 10 ans ou bien d'ici 50 ans, tout dépendra du financement annoncé par Emmanuel Macron. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et à Marseille, comme dans le reste de la France, les collèges et les lycées se préparent à rendre hommage à Samuel Paty. Une minute de silence et des échanges élèves-professeurs autour du métier d'enseignant et du développement de l'esprit critique sont prévus aujourd'hui. Une cérémonie sera organisée demain au ministère de l'Éducation nationale, samedi donc, un an jour pour jour après l'assassinat de ce professeur d'histoire.
On en vient à la campagne présidentielle à 5h34 et Anne Hidalgo est officiellement investie par le Parti socialiste.
Et ce n'est pas vraiment une surprise, la maire de Paris obtient 72% des voix face à son adversaire, le maire du Mans, Olivier Le Foll. C'est le patron du PS, Olivier Faure, qui a annoncé le résultat du vote des militants avant de transmettre le micro à la désormais candidate officielle du parti.
Anne Hidalgo a été désignée par l'ensemble des militants à plus de 72%.
Merci. Merci à toi, Olivier. Mes premiers mots seront pour les militants socialistes. Merci à elles et à eux de m'accorder leur confiance dans une campagne présidentielle et une élection à nul autre pareil.
La maire de Paris est candidate officielle du Parti socialiste, Anne Hidalgo. À droite, c'est un retour dans la famille pour Valérie Pécresse. La candidate à l'investiture reprend sa carte chez les Républicains, parti qu'elle avait pourtant quitté il y a 2 ans. Ce vendredi marque la fin de la gratuité des tests de dépistage anti-Covid pour les personnes non vaccinées et sans prescription. Il faudra payer 44 € pour un PCR, 25 € pour un antigénique. C'est bien moins cher que la plupart de nos voisins européens. Un test PCR peut par exemple coûter jusqu'à 120 € en Allemagne, 180 en Espagne.
Le MMA n'a pas bonne presse, mais il s'installe désormais comme le sport de combat du moment.
Oui, loin devant les autres, et notamment la boxe, qui à force de multiplier les combats gags et les ceintures, a fini par perdre un peu de son prestige et de son intérêt. Tout le contraire du MMA, ce sport de combat qui mélange plusieurs arts martiaux, s'est invité hier dans un cadre prestigieux, le Cirque d'hiver à Paris. Signe de sa notoriété et de son poids grandissant. Reportage Axel May.
Dans une ambiance survoltée, le public, plutôt masculin, plutôt jeune, encourage les adversaires qui s'affrontent dans une cage octogonale. Le premier combat est arrêté sur KO, le quatrième après un bras cassé, un doigt dans l'œil interrompt le cinquième combat. Mais ne dites pas à Liu Nai, surnommé le Jaguar, que son sport est trop violent.
Pas du tout, au contraire, maintenant, limite, il y en a qui se plaignent parce que les combats sont arrêtés trop tôt, quoi. Pour vous dire la vigilance de tous ceux qui encadrent ce sport, dès qu'on voit qu'il y a le moindre risque, on ne continue pas.
Dans un cirque d'hiver rempli aux deux tiers, un groupe d'amis assiste à sa première soirée de MMA.
C'est impressionnant à voir en vrai. Ouais, c'est un peu brutal. Après, c'est ce sport qui veut ça, je pense. Hein.
Ça démarre en France. Moi, je suis confiant pour l'avenir. On a juste besoin d'organisation et de médiatisation.
Mais le modèle économique du MMA en France est pour l'instant fragile. Eric Conaco est l'un des organisateurs de la soirée.
Les sponsors ne veulent pas pour l'instant s'associer avec le MMA en France, juste par rapport à son image. Mais ça ne saurait tarder.
L'arrivée, peut-être dès le début de l'année prochaine en France, de l'UFC, l'organisateur mondial de référence de MMA, devrait donner un coup d'accélérateur à la discipline.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger, ses pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet. Une course au trot attelé qui réunira 16 chevaux âgés de 7 à 10 ans. Et j'ai choisi comme favorite le numéro 15, Élite de Giel. Une jument douée, certes parfois fantasque, mais qui trouve ici une occasion idéale de renouer avec la victoire face au numéro 9, Deux Ex Machina, avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Derrière ces deux-là, je vous recommande Sectar, le numéro 8, qui ne peut rêver meilleures conditions de course, juste à la limite du recul des 25 mètres, mais aussi Comte des Titets, le numéro 16, sur lequel on peut souvent compter, notamment à Vincennes, sur la grande piste, un tracé qu'il apprécie. Enfin, les numéros 7, Excel d'Amour, 6, Sister Day, 5, Driango de Nil et 3, Extra du Château compléteront ma sélection. Mon pronostic, 15, 9, 8, 16, 7, 6, 5 et 3.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h40, bon réveil à vous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Pour la première fois, un salon français du CBD entièrement dédié aux professionnels se tiendra à Paris ce week-end. Le CBD, ou appelé le chanvre du bien-être, est un dérivé du cannabis sans effet psychotrope. Omblin, on en parle avec le psychologue clinicien Jean-Pierre Coutron.
Bonjour Jean-Pierre Coutron.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions d'addiction. Vous exercez dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, le XAPA, le trait d'union de l'association Opelia à Boulogne-Billancourt. Depuis le 23 juin dernier, la vente de produits à base de CBD est autorisée en France. Ils se présentent sous différentes formes, hein, des huiles, des fleurs, des résines. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'est le CBD ?
Le CBD, c'est un des cannabinoïdes qui compose ce qu'on appelait autrefois le cannabis. Voilà, hein. Donc il y a le THC, qui est le cannabinoïde recherché par la police, entre guillemets, c'est celui qui est interdit par la loi, et le CBD, c'en est un autre, qui a des effets jugés suffisamment moins psychotropes pour ne pas être interdit, et peut-être suffisamment agréable pour être recherché par les usagers. C'est tout l'enjeu actuel.
Le CBD n'est donc pas un stupéfiant, par définition.
Légalement, le CBD n'est pas un stupéfiant, puisque les stupéfiants, ce sont les substances interdites par la loi.
A-t-il des effets bénéfiques sur la santé ?
C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament, et dans la plupart des formes telles qu'elles sont commercialisées dans les boutiques, bien évidemment, on n'est pas dans une pharmacie et on n'est pas sur prescription. Mmh. Il a des effets qui sont jugés agréables, peut-être bénéfiques pour la santé, comme aller courir, par exemple, peut être jugé bénéfique pour la santé, mais n'est pas pour autant un médicament. La deuxième caractéristique qu'on essaye de surveiller, c'est a-t-il des effets négatifs sur la santé ? Eh bien, là, c'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas identifié d'effets secondaires qui justifieraient de l'interdire. Donc, il est dans une zone avec laquelle on n'est pas toujours à l'aise en France. Il est dans une zone intermédiaire de produits dits un peu de bien-être, de confort, tels que d'autres substances. On a eu, sur un autre mode, la même chose avec les boissons énergisantes.
C'est contre le stress, l'anxiété, des effets psychoactifs.
Alors le CBD, là, c'est plutôt décontractant, effectivement. Mmh. Le stress, là, un effet de détente. On parle beaucoup en ce moment du côté des usagers, de l'aide au sommeil. Alors c'est pas un hypnotique, mais un produit de confort au niveau d'un certain nombre de situations de la vie quotidienne.
Peut-on être addict du CBD ?
Avec tout ce que je viens de vous dire, non. Alors je prends le risque, parce qu'il
n'y a pas d'addiction.
Voilà, hein. Mais on a de fortes chances d'être addict de beaucoup de choses avant d'être addict du CBD. Et puis alors, soyons sérieux, mais avec un peu d'humour, il y a tout un tas de produits qui commercialisent du CBD, des crèmes, des tisanes, ainsi de suite, avec lesquels on a très peu de chances, alors là, regarde, hein, soyons clairs, d'être addict. La restriction, c'est si vous donnez ça à quelqu'un de trop jeune, si vous en prenez des formes qui seraient trop dosées, voilà, c'est quand même un produit. Même si on dit qu'il n'est pas psychoactif, ce n'est pas que de l'eau pure ou de l'air pur, sinon on ne le vendrait pas de façon un peu particulière. Donc c'est quand même un produit qui a des effets. Et une fois qu'on a dit qu'on ne peut pas être addict, une fois qu'on a dit qu'il ne faut pas le confondre avec une drogue en dramatisant, il est important de dire attention, quand même pas n'importe qui, pas n'importe comment, peut-être pas n'importe quand, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout l'objet des discussions actuelles.
Est-ce qu'à l'image de la cigarette électronique qui peut être, je mets des guillemets, mais qui peut être une manière pour les fumeurs d'arrêter progressivement, le CBD peut-il aider un fumeur de cannabis à être sevré ?
Alors c'est une des pistes, alors là on est dans une rubrique particulière, hein. C'est la possibilité de prendre un effet de décontraction et de s'en servir pour se passer de l'ensemble des effets du cannabis. L'expérience mériterait, il y a des collègues qui commencent à essayer de monter des recherches là-dessus. Actuellement, on est sur des observations cliniques. Il y a des usagers pour lesquels ça ne marche pas et il y a des usagers pour lesquels ça fonctionne. Ils se servent du CBD, ils le prennent d'ailleurs sous des formes inhalées pour réduire les risques de cancer dû à la combustion et ça leur permet de diminuer et parfois même de se passer de la consommation de cannabis sous la forme complète.
Pour ma dernière question, je m'éloigne un petit peu du CBD concernant le chanvre à vocation thérapeutique. Alors on ne parle plus de CBD mais de plants de cannabis pourvus de THC. La culture et la vente restent interdites dans notre pays, mais l'État a donné son feu vert pour l'expérimentation du cannabis médical. Quel est votre avis sur la question ?
C'est une très bonne chose. C'est confié à des médecins, c'est confié à des pharmaciens, c'est confié à une filière qui a l'habitude de bien évaluer les bénéfices-risques, et ça cible une partie de personnes qui déjà consomment le cannabis pour se traiter par rapport aux pathologies identifiées, sauf qu'elles sont obligées de l'acheter dans des conditions honteuses, dans le marché parallèle, et qu'elles en souffrent en plus de leur pathologie. Donc c'est une très bonne chose. Je rappellerai qu'on fait ça depuis longtemps avec les opiacés, et heureusement qu'un certain nombre de nos concitoyens peuvent bénéficier des traitements dus à l'opium.
Merci beaucoup Jean-Pierre Coutron de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, vous exercez dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie en région parisienne. Merci beaucoup.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h46 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce vendredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Un an après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, tous les établissements scolaires de France lui rendent hommage aujourd'hui sous différentes formes. Minutes de silence, débats en classe ou encore projection de documentaires sur la laïcité. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, prévient les perturbateurs seront sanctionnés. Fini le tout gratuit, les tests Covid de confort deviennent payants à partir d'aujourd'hui pour les plus de 7 millions de Français qui ne sont toujours pas vaccinés, de 22 à 45 euros. Et puis, direction Marseille aujourd'hui pour Emmanuel Macron, premier point d'étape de son plan Marseille en grand pour 1,2 milliard d'euros annoncé le 2 septembre. L'occasion pour le président de se pencher sur les premiers chantiers, notamment scolaires, avec l'expérimentation du choix des professeurs par les directeurs.
On en vient à la prescription culture et le vendredi, c'est musique avec Stéphanie Loire.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Obline, bonjour Julien.
Et ce matin, vous nous parlez d'un retour très attendu sur la scène musicale planétaire, celui de la chanteuse britannique Adele, dont le tout nouveau single a été dévoilé cette nuit. On va l'écouter dans un instant, mais avant Stéphanie, retour sur la brillante carrière de cette voix à couper le souffle.
6 ans après son dernier album 25, Adele dévoilera le 19 novembre prochain son 4e opus, sobrement intitulé 30, parce que depuis ses débuts, ses disques ont pour titre l'âge qu'elle a lors de leur création, donc 19 en 2008, 21 en 2011 et 25 en 2015. En 3 albums, Adele a écoulé plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Son dernier album en date, 25, lui a valu 5 Grammy Awards en 2017. Il était porté par ce tube, Hello, qui s'écoule à plus de 12 millions d'exemplaires sur l'année 2015. Le clip réalisé par le cinéaste Xavier Dolan a été vu plus de 2,3 milliards de fois depuis sa parution. Adele, elle a le sens de la promotion, elle s'est fait discrète depuis quelques années. Elle a préparé tout doucement son retour médiatique. Elle a fait la couverture de l'édition anglaise du Vogue ce mois-ci. Elle y est revenue sur les dernières années de sa vie, son futur album, son divorce, sa perte de poids. Tout y passe. Je vous propose un retour rapide sur sa carrière en quelques tubes qui ont fait d'elle en 10 ans l'une des chanteuses les plus populaires du monde. From my hometown, Hometown Glory, sa toute première chanson écrite à l'âge de 16 ans. Elle passe inaperçue à sa sortie en octobre 2007 et elle est redécouverte à la sortie de l'album 19. Quelques semaines plus tard, et lui vaut sa première nomination aux Grammy Awards. Deep, c'est la chanson de la révélation planétaire pour Adele, un tube acclamé par la critique qui sert de rampe de lancement pour le carton mondial de son deuxième album 21. Il s'écoule à plus de 20 millions d'exemplaires, reste 65 semaines dans les charts américains et lui rapporte 3 Grammy Awards, de moins en moins de place sur sa table de chevet pour ses autres bibelots. Someone Like You, la ballade romantique sur laquelle on a tous pleuré après s'être fait larguer. Une chanson qui se vend à plus de 17 millions d'exemplaires. Le public anglais l'élit 3e meilleure chanson des 60 dernières années, derrière Bohemian Rhapsody de Queen et Billie Jean de Michael Jackson. En 2012, Adele est choisie pour interpréter le thème du 21e épisode de la saga James Bond, Skyfall, réalisé par Danny Boyle. La chanteuse est couronnée cette fois par l'Oscar de la meilleure chanson. Ce mercredi, Adele a publié sur les réseaux sociaux un long message à l'attention de ses fans et dévoilé la pochette de ce 4e disque studio 30. Le titre, c'est une balade, comme elle sait si bien les faire.
Et cette balade, justement, elle s'appelle Easy on Me. Elle a été donc révélée cette nuit. On l'écoute tout de suite sur Europe 1.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope
Plus grande chanteuse à voix d'aujourd'hui. Elle a toujours su jouer avec nos nerfs. On l'attendait depuis 6 ans. La toute nouvelle chanson d'Adèle, dévoilée il y a quelques heures, Easy on Me, premier extrait de son album 30, qui paraîtra le 19 novembre.
Europe Matin.
5h54 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir vos quotidiens régionaux. Et ce matin, on prend la direction du Pas-de-Calais.
Bonjour Florent Caffry.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Nord Littoral et l'on sent ce matin à la lecture de votre journal une certaine excitation et pour cause. On a appris hier que le Tour de France allait passer par Calais l'été prochain.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On était plutôt heureux au niveau de la rédaction. On a consacré 6 pages ce matin dans notre édition au retour du Tour de France à Calais. Cela faisait 20 ans que le Tour n'était plus passé par notre commune. Donc évidemment, les élus avaient fait le déplacement hier à Paris pour le dévoilement du Tour 2022. Et évidemment, tout le monde est ravi de retrouver le Tour de France à Calais.
Vous nous racontez que la maire de Calais, Natacha Bouchard, n'a eu la confirmation qu'il y a quelques jours seulement.
Oui, c'est vraiment tout frais. Alors, tout est parti d'un cheminement tout de même qui a duré depuis 2 ans. Il y a eu de longs échanges avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Des courriers envoyés, une sorte de séduction en fait à réaliser de la part de la ville de Calais pour pouvoir attirer le Tour. Il y avait toujours une incertitude. La ville a eu la confirmation il y a quelques jours, mais il y avait tout de même un certain flottement jusqu'au moment où la carte a été dévoilée hier au Palais des Congrès.
Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a convaincu l'organisateur du Tour de choisir Calais parmi les centaines de candidatures?
Eh bien, d'après la maire de Calais, il ne s'agissait pas simplement d'envoyer un courrier pour montrer sa volonté d'accueillir le Tour de France. Il fallait évidemment quelque chose derrière. Et à Calais, eh bien, quand on parle de cette ville, on parle souvent politique. Et l'image qui est renvoyée par Calais, malheureusement, très souvent, est celle des migrants. Évidemment, depuis une douzaine d'années où Natacha Bouchard est maire de cette commune, son souhait, c'est évidemment de changer l'image de la ville. Et attirer le Tour de France, cela veut dire avoir des milliers de touristes qui pourront venir à Calais et évidemment des millions de téléspectateurs qui pourront observer le front de mer, le centre-ville et tout un tas d'autres éléments de la ville de Calais.
J'imagine que les nouveaux aménagements tout autour du port ont aussi dû jouer, ça donne une nouvelle image à la ville.
Évidemment, il y a le port, il y a le front de mer qui a été totalement réhabilité. Et puis le fameux Dragon de Calais, cette machine assez incroyable mise sur pied par François de la Rosière de la compagnie La Machine, qui permet à Calais d'avoir une autre image. Le souhait clairement de Natacha Bouchard est d'avoir une reconnaissance du territoire qui est en souffrance. Et le Tour de France est une vitrine inestimable. La ville de Calais va débourser environ 300 000 euros pour pouvoir accueillir le Tour de France. Ça s'attend à des retombées tout de même à chiffrer entre 2 et 3 millions d'euros. Sans compter évidemment l'impact télévisuel du Tour de France, parce qu'on sait très bien que les images aériennes sont à couper le souffle et Calais fera partie du coup du Tour 2022.
J'imagine que les Calaisiens sont ravis ce matin, d'autant que vous l'avez dit, ça fait plus de 20 ans que la caravane n'avait pas traversé la cité des Six-Bourgeois.
Oui, la dernière fois c'était en 2001 lors d'un grand départ qui avait eu lieu sur la côte d'Opale. Puis auparavant, c'était en 1994 et encore avant, en 1966. Alors vous imaginez bien que la plupart des Calaisiens qui ont une vingtaine d'années actuellement n'ont jamais vu le Tour de France passer. Et même ceux qui ne sont pas amoureux de cyclisme, je pense, seront à Calais le 5 juillet prochain pour pouvoir observer la caravane, le Tour et tout le barnum de cette compétition.
Merci infiniment, Florent Caffry, de nous avoir
Merci
fait découvrir
vous.
Ce dossier donc sur le passage à venir du Tour de France à Calais. Et c'est à lire donc aujourd'hui dans Nord Littoral. Très bonne journée à vous.
Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europa, il est 5h58 et au programme de la prochaine demi-heure, Julien, on va revenir sur la disparition d'Hubert Germain.
Le dernier compagnon de la Libération qui nous a quitté mardi à l'âge de 101 ans. Un hommage présidé par Emmanuel Macron lui sera rendu cet après-midi dans la cour des Invalides. Hommage au grand homme qui était Hubert Germain et dans un deuxième temps à l'idée tenace que lui et ses 1037 camarades se faisaient de la France en répondant à l'appel du général de Gaulle. Un pays qui n'abdique pas, même dans la tempête, un pays épris de liberté et d'égalité. Comment transmettre désormais cette mémoire maintenant que ces acteurs se sont tués à jamais? On posera la question dans 10 minutes au délégué national de l'Ordre de la Libération et ami d'Hubert Germain, le général Christian Baptiste. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
L'un boit son whisky avec glace, l'autre sans, l'un chante, l'autre pas. Et tous les deux ont écrit ensemble environ 200 titres.
Il faut me garder et m'emporter.
Le chanteur et parolier Eddie Mitchell, avec son fidèle second, le compositeur et pianiste Pierre Papamandis, une collaboration extrêmement féconde depuis 50 ans. Papadiamandis, pardon. Rendez-vous dans 20 minutes.
Ma chère Anissa Haddadi, des nuages un peu plus épais dans le nord et au bord de la Méditerranée.
Oui, alors ce matin sur les Hauts-de-France et les Ardennes, on a des nuages un petit peu plus épais qui pourront lâcher quelques gouttes. Et puis dans le sud, au bord de la Méditerranée, on a des entrées maritimes qui apportent de la grisaille. Partout ailleurs, on a un temps sec, ensoleillé, avec un léger voile nuageux. C'est-à-dire que c'est un peu moins beau qu'hier, mais enfin, c'est pas du tout catastrophique, ça reste très agréable. Les températures, moins 1 à Clermont-Ferrand, 2 à Strasbourg et 3, 6 degrés à Paris, 9 à Marseille, 12 à Dunkerque. Cet après-midi, c'est comme hier, 15 à 23 degrés.
Merci Anissa. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Fini la gratuité des tests Covid pour les non-vaccinés, une mesure pour inciter les récalcitrants à se protéger. La France n'en est pas encore au point de l'Italie où depuis ce matin, le pass sanitaire est obligatoire pour tous les salariés. On ne l'oubliera jamais, il y a un an, Samuel Paty a été assassiné près de son collège des Yvelines, victime du terrorisme islamiste. Où en est l'enquête? Le point dans ce journal. Des noms de communes avec 30 lettres ou plus, ça ne passe pas sur les nouvelles cartes d'identité au format carte bleue. Un problème de taille que n'avait pas anticipé l'administration. Le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 25 euros, s'il vous plaît, c'est la note que vous devrez régler ce matin chez votre pharmacien pour un test antigénique. Comptez 44 euros pour un PCR. Pour les 7 millions de Français non vaccinés, le dépistage gratuit, c'est fini.
Et pour encourager la vaccination, l'Italie, elle, opte pour une autre option. Imposer dès ce matin le pass sanitaire à tous les salariés, secteur public comme privé. Après plusieurs semaines de manifestations, ce tour de vis ne passe pas. Écoutez le reportage à Rome de notre correspondante Blandine Hugonnet.
Comme de nombreux Italiens, Alberto est en colère contre cette nouvelle obligation et compte même s'y opposer dans son épicerie du centre de la capitale. Pas question de suspendre aujourd'hui ses employés qui se présentent sans passe sanitaire.
Je ne peux pas renvoyer chez lui mon employé sans passe. Il a déjà été étranglé par 2 ans de chômage à cause du Covid. Ce n'est pas correct.
Tous les jours, dans tous les secteurs publics ou privés, les employés seront contrôlés. Mais près de 4 millions ne sont toujours pas vaccinés. Ils risquent désormais 1500 euros d'amende et une suspension de leur salaire, à moins d'obtenir un pass sanitaire grâce à un test dans sa pharmacie romaine. Martha a d'ailleurs vu des travailleurs arriver par dizaines.
Les clients nous ont demandé des réservations de tests jusqu'à fin décembre. Malgré l'obligation de pass sanitaire, ils ne préfèrent pas l'option de se faire vacciner gratuitement.
Et les travailleurs anti-vaccins devront mettre la main à la poche tous les 2 jours pour pouvoir continuer à travailler. Les tests, qui coûtent 15 euros maximum en Italie, ne sont pas remboursés par l'État. Rome Blandine Gonnet, Europe 1.
Un tueur isolé, sous influence. Un an après la mort de Samuel Paty, l'enquête tente d'établir le rôle joué par une quinzaine de protagonistes dans cet acte terroriste. Un attentat en guise de représailles.
Le professeur d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine avait montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. Il a été assassiné à quelques centaines de mètres de son collège, victime d'un islamiste d'origine tchétchène, abattu par des policiers après l'attaque. L'épilogue tragique d'un engrenage alimenté par les réseaux sociaux et certains parents d'élèves du collège. Gladys Lafitte, un an après, 15 personnes sont mises en examen.
Oui, les enquêteurs les ont divisés en quatre cercles, en quelque sorte. D'abord, ceux qui ont apporté une aide matérielle. Puis les collégiens qui ont pointé le professeur contre de l'argent. Troisième cercle, les personnes suspectées d'avoir encouragé le terroriste à passer à l'acte avec qui il échangeait virtuellement. Et enfin, les influenceurs. Le parent d'élève à l'origine de deux vidéos dénonçant les prétendues actions de Samuel Paty et Abdelhakim Sefrioui, le militant islamiste, accusé d'avoir facilité la définition d'un projet criminel selon les juges d'instruction, en contribuant à faire connaître l'identité du professeur. Mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste, ils sont en détention provisoire. Virginie Leroy est l'avocate de la famille de Samuel Paty.
L'instruction est complexe, le dossier est complexe, parce que voilà, on a quatre socles d'intervenants qui sont distincts et qui en même temps sont extrêmement imbriqués, parce que c'est tout cet engrenage qui amène à l'assassinat de Samuel Paty.
Des confrontations doivent encore avoir lieu. Les enquêteurs tentent aussi de décrypter certains messages échangés entre les différents protagonistes du dossier.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
6h passées de 3 minutes sur Europe 1. On en vient à ce problème de taille que les autorités n'avaient pas anticipé concernant les nouvelles cartes d'identité arrivées en août dernier.
Quel est le point commun entre Saint-Quentin-la-Motte-Croix au Bailly et Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne? Ces villages s'écrivent avec plus de 30 caractères et ça ne rentre pas dans les nouvelles cartes d'identité au format carte bleue. Près de 80 communes seraient concernées. Les explications de Zoé Pallier.
Saint-Quentin-la-Motte, Croix, au Bailly, 38 caractères et des habitants sans carte d'identité pendant plusieurs mois. La préfecture bloquait leur demande de renouvellement jusqu'à l'intervention du maire Rénald Boulanger.
Un habitant avait dû repousser déjà deux fois sa présence à l'examen du code de la route parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Donc la solution de rechange, ça a été de raccourcir le nom de notre commune qui du coup apparaît seulement en trois mots.
Raccourcir, utiliser des abréviations ou des symboles, les préfecture bricole des solutions en attendant l'arrivée de nouvelles cartes. Il n'y aura plus une, mais deux lignes réservées au nom des communes, précise Anne-Gaëlle Baudouin. Elle dirige l'Agence nationale des titres sécurisés.
Ça permet de régler beaucoup de situations. Par exemple, vidéo les poils roufinis. Avec cette évolution, on peut écrire l'ensemble du nom de la commune. Parce qu'avant l'évolution, on écrivait simplement vidéo les poils.
Mais ça restera insuffisant pour les noms les plus longs. L'administration planche donc sur de nouveaux ajustements. Justement, comme une plus petite police de caractère.
Zoé Pallier.
Il lui était impossible de paraître essoufflé à 6 mois de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, crampon au pied, a joué hier avec le Variété Club de France. Un match caritatif au profit de l'opération Pièce Jaune.
Exercice inédit pour un président en exercice. Emmanuel Macron en maillot bleu ciel frappé du 3, son numéro fétiche. Le président jouait milieu de terrain pour jouer à gauche et en même temps à droite. Et visiblement, Cyril de la Morainerie, il était très à l'aise sur le terrain.
Oui, dès la 8e minute, le président de la République, maillot numéro 3 dans le dos, prend ses responsabilités.
Pénalty, Emmanuel Macron s'apprête à le tirer. Et but !
Une frappe présidentielle plein axe que le gardien n'a sans doute pas osé arrêter. Emmanuel Macron a joué 75 minutes sans s'économiser, jamais débordé sur sa gauche et très tenace sur l'aile droite. Même si, vu des tribunes, Pascal estime qu'Emmanuel Macron est encore perfectible balle au pied.
Pas beaucoup touché le ballon. Quand il l'a touché, il y a des fois où il l'a aussi un peu donné aux adversaires. C'est quand même lui qui sera aujourd'hui en photo dans les journaux. Hein.
En tout cas, le chef de l'État s'est appuyé sur ses coéquipiers.
Il faut jouer collectif pour gagner, en sport ou en politique.
Et notamment Rudy Garcia, qui l'a accompagné au milieu de terrain, même si la communication entre les deux hommes n'a pas toujours été simple.
Lui avait demandé dans le vestiaire, on l'appelle pas président, qu'on le vouvoie pas, etc. Mais j'avoue que c'est pas toujours facile de tutoyer son président.
Score final 6-1 pour l'équipe du président. Un bel entraînement pour le match de 2022.
Cyril de la Morainerie du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec Martin Lange. Et du foot pour commencer, Martin, après la trêve internationale, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir.
Oui, le PSG reçoit Angers en ouverture de la 10e journée. Les Parisiens qui doivent reprendre leur marche en avant après leur première défaite de la saison. C'était contre Rennes, juste avant la trêve. Ce soir, ils devront se passer de leurs internationaux sud-américains à rentrer tardivement de sélection. Pas de Neymar donc sur la pelouse du Parc. Le Brésilien qui a fait part de ses états d'âme cette semaine est soutenu par son entraîneur Mauricio Pochettino.
Neymar, c'est un garçon sincère qui dévoile rapidement ses sentiments. Et puis, il faut prendre les choses dans leur contexte. C'est quelqu'un de très fort mentalement. sans oublier que c'est un joueur qui est sous le feu des projecteurs depuis qu'il est très jeune. Mais il aime le football et il reste quelqu'un de très souriant. Sa passion pour le football, il la démontre tous les jours avec nous.
PSG Angers, c'est à 21h ce soir.
Cyclisme, et on connaît le parcours du Tour de 2022.
Oui, des pavés en première semaine, des bosses, des arrivées mythiques comme la planche des Belles Filles ou l'Alpe d'Huez. La Grande Boucle 2022 en fait saliver, même si elle oublie l'ouest du pays, au grand dam de Guillaume Martin. Le Normand en milite pour un passage chez lui, écoutez.
C'est vrai que depuis que je suis pro, on n'y est quasiment jamais passé. Et bien sûr que j'ai très hâte de voir le Tour en Normandie. Je pense qu'on peut faire des super parcours et vraiment là aussi avoir des étapes qui ressemblent à des classiques. Si les organisateurs veulent des conseils sur les routes, je suis à leur disposition.
Le parcours du Tour féminin a aussi été dévoilé hier. 8 étapes dans l'Est avec un point en point d'orgue, l'arrivée à la planche des Belles-Filles.
En bref, pour finir, Martin.
Du foot féminin et Lyon qui écrase Benfica 5-0. Une loi attendue depuis plus de 30 ans. Il n'y aura plus de match de foot le 5 mai pour commémorer la catastrophe de Furiani. L'effondrement d'une tribune avait fait 19 morts en 1992 à Bastia. Et puis du basket avec la première défaite en Euroleague de l'Asvel, 93-85 contre le Maccabi Tel Aviv.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
6h08 sur Europe 1, vous restez avec nous. Un invité exceptionnel dans un instant, le général Christian Baptiste, artisan de l'hommage qui sera rendu cet après-midi aux Invalides à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération qui s'est éteint mardi. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. Ils étaient 1038 à avoir répondu à l'appel du général de Gaulle en juin 1940. Ce sont les compagnons de la Libération et le dernier d'entre eux, Hubert Germain, s'est éteint ce mardi. Un hommage lui sera rendu à 15h aux Invalides. Et pour en parler, Julien, nous recevons le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération.
Bonjour général.
Oui, bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez tout à l'heure aux côtés du président de la République pour rendre hommage à un homme au parcours exceptionnel dont l'audace, le courage et la lucidité forcent le respect. Hubert Germain était l'ultime représentant d'une certaine idée de la liberté. Alors est-ce que pour l'occasion, la cérémonie sera différente de toutes celles qui l'ont précédée ?
Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les 1038 compagnons physiques, à l'époque sur 40 millions de Français, était ce que Général de Gaulle a dit, une chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'histoire de France. Et le Général de Gaulle a voulu qu'au sein de cette chevalerie, tout le monde soit à égalité. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de chef. Le deuxième classe est égal au général. Une ville comme la capitale n'est pas plus importante que l'île de Sein. Un régiment vaut un homme, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était déjà l'idée d'une certaine égalité. Et donc, il aura exactement la même cérémonie que, par exemple, M. Cordier en novembre dernier et des autres de ses compagnons. Elle sera présidée par le président de la République qui a déjà présidé un certain nombre d'éloges funèbres pour les compagnons. En revanche, le 11 novembre, pour répondre au vœu du général de Gaulle que le dernier compagnon rentre au Mont Valérien, qui est le monument de la France combattante, où déjà 16 hommes, femmes, Français libres, résistants à l'intérieur, combattants, ressortissants de l'ancien empire, attendent le dernier compagnon. Alors là, il y aura une cérémonie tout à fait exceptionnelle à l'Arc de Triomphe, puis au Mont Valérien. Et Monsieur Germain, à ce moment-là, sera le vecteur de l'ensemble de cette cohorte qui rentrera avec lui au Mont Valérien.
Pourquoi ce lieu est-il si symbolique ? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ?
Alors le Mont Valérien, si vous voulez, ça a été quand même un lieu tout à fait dramatique pendant ces années de guerre, puisque dans ce lieu ont été fusillés 1008 résistants. C'était donc un haut lieu, si vous voulez, de martyrs. J'incite vos auditeurs à aller au Mont Valérien. Vous avez en demi-cercle, pour l'instant, 16 cercueils. Et puis au centre, une place vide. Comme une arche solennelle et glorieuse qui n'aurait pas sa clé de voûte. Eh bien, la clé de voûte, le 11 novembre, va venir solidifier, rigidifier cette arche glorieuse pour se rappeler que la liberté a un prix.
Ces derniers temps, général, vous rendiez visite tous les jours à Hubert Germain dans sa chambre de l'hôpital militaire des Invalides, à quelques mètres donc de la cour où va se dérouler l'hommage cet après-midi. Quelles ont été ses dernières pensées, ses dernières consignes peut-être ?
Alors vous avez raison de donner d'employer le mot consigne, monsieur, parce que Hubert Germain était le chancelier d'honneur de l'ordre. S'il voulait, il était mon autorité morale. Fonctionnellement, j'avais deux chefs, le président de la République, et en autorité morale, Hubert Germain. Eh bien, sachez que jusqu'au bout, Il a été extrêmement soucieux de me donner des consignes, des orientations et parfois des ordres, je crois, hein, que je m'empêcherai de respecter sur l'avenir de l'Orne. En fait, il m'a demandé de porter un certain nombre de sujets. Nous avons travaillé ensemble et nous avons proposé à travers un groupe de travail au président de la République un certain nombre de choses. Il les a validées et il les annoncera, je crois bien, le 11 novembre.
Vous conviendrez qu'il y a un devoir de mémoire qui va au-delà des futurs contours éventuels de l'Ordre de la Libération. C'est une mission qui nous concerne tous. Comment inspirer les nouvelles générations maintenant que l'on ne peut plus entendre de vive voix les récits d'Hubert Germain qui, je le rappelle, n'avait que 19 ans quand il a rejoint l'Angleterre en juin 1940 ?
Vous avez raison, monsieur. C'est pour ça d'ailleurs que depuis déjà quelques années, nous nous sommes efforcés à enregistrer films, audio, un certain nombre de ces témoignages, parce qu'il n'y a rien de plus fort que le témoignage de ceux qui ont vécu les événements et qui ont fait l'histoire. Il n'y a pas mieux que la proximité d'âge, de régional, de métier pour intéresser des jeunes. Et parmi les 1038 compagnons, plusieurs avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans en 1940. Un certain nombre se sont sacrifiés, d'autres ont survécu. Mais si vous voulez, par exemple, il y a quelque temps, on m'a mis du côté de Strasbourg avec 400 jeunes troisièmes venant de plusieurs établissements. Eh bien, je suis parti sous mon bras, le parcours de 4 de ces jeunes. Hein, et ça a été extrêmement intéressant parce que l'Assemblée s'est tout de suite identifié à eux puisqu'ils avaient le même âge. Et puis, au fur et à mesure, nous avons échanger parce que raconter l'histoire de ces personnes, c'est tout à fait essentiel. Ce qui était important, et c'est ce que nous essayons de faire, c'est de leur faire tirer des leçons à tous ces jeunes. Mmh. Finalement, pourquoi ce héros que vous avez choisi, que vous avez étudié, pourquoi à un moment donné, il a pensé que son destin personnel était moins important que le destin de la France ? Et puis, en partant du particulier, on va vers le général. Ça veut dire, mais alors de la France, qu'est-ce que c'est que la France? Qu'est-ce que c'est qu'une patrie? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de destin? Voyez? Et les compagnons de la Libération et les milliers de la Résistance se prêtent très bien à être le point de départ d'une étude et d'une réflexion, puisque finalement, ils ressemblent à ceux qui les étudient avec 80 ans un peu plus en arrière.
Merci infiniment, général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération. Merci d'avoir partagé avec nous les derniers souhaits d'Hubert Germain à quelques heures de l'hommage qui lui sera rendu dans la cour des Invalides. À bientôt.
Voilà. Merci monsieur.
Il est 6h17 sur Europe 1, vous restez avec nous. La collaboration entre Eddie Mitchell et son compositeur Pierre Papadiamandis dans la partition. À tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h20 sur Europe 1 et c'est le journal permanent avec Alban Leprince.
Près d'un an, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré une caricature de Mahomet en classe. Les établissements scolaires français lui rendent hommage aujourd'hui. Minute de silence, débat en classe ou encore projection de documentaires sur la laïcité. École, logement, emploi, Emmanuel Macron retourne à Marseille ce soir à l'occasion d'un dîner, un mois et demi après avoir lancé le plan Marseille en grand pour 1,2 milliard d'euros. Le président se penchera sur les premières avancées. Et puis 22 à 45 euros, ce sont les tarifs pratiqués à partir d'aujourd'hui pour toutes les personnes non vaccinées qui souhaiteraient se faire tester. Elles sont plus de 7 millions.
On termine avec votre partition, Omblin, et le retour chez les disquaires d'un certain Eddie Mitchell. Après la publication de l'intégrale Acte 1, rendez-vous aujourd'hui avec le volume 2 qui rassemble les enregistrements studio réalisés de 1980 à aujourd'hui.
Voilà, Julien, Eddie Mitchell continue de célébrer ses 60 ans de carrière, dont 50 partagés avec son complice et pianiste-compositeur, Pierre Papadiamandis.
Je suis pas comme Eddie. Je veux rester ici, ice cream et sweet home, comme quand j'étais môme.
Il se rencontre au début des années 60. Eddie Mitchell cherche alors un pianiste pour son spectacle à Bobino à Paris.
Oui, ce sont eux qui racontent cet épisode lors d'une interview accordée au journal L'Express. Pierre Papadiamandis a 25 ans, Eddie Mitchell 5 ans de moins, et il vient d'enregistrer la chanson « Toujours un coin qui me rappelle », morceau sur lequel on entend un piano. Le musicien est donc engagé et pendant 2 ans, il officie simplement en tant que pianiste au sein de l'orchestre du chanteur.
Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherche du regard un spot de Dieu projeté.
En 1966, Pierre Papadimoudis décide à faire entendre à Monsieur Eddy l'une de ses compositions.
Elle deviendra la chanson « J'ai oublié de l'oublier ». Elle donnera surtout naissance à leur tandem et à une très belle histoire d'amitié ponctuée de vannes et de chamailleries. C'est d'ailleurs grâce à Pierre Papadimoudis qu'Eddy Mitchell préfère les chansons originales aux reprises de tubes américains.
Et depuis le début, le duo travaille toujours de la même manière.
Oui, le premier livre « Les musiques » et ensuite le second écrit les paroles. Eddy Mitchell explique qu'il ne sait pas faire autrement. Il ne croyait pas qu'ils aient des chansons d'avance dans leur tiroir, il crée dans l'instant au fur et à mesure. Si bien que le producteur d'Eddy Mitchell détermine les dates d'enregistrement de ses albums avant même d'avoir écouté quoi que ce soit.
En 1982, lorsqu'Eddy Mitchell apparaît à la télévision dans l'émission La Dernière Séance, il publie au même moment son album Le Cimetière des éléphants.
L'exemple parfait de sa collaboration fructueuse avec Pierre Papadimoudis. Eddy Mitchell part enregistrer aux États-Unis pour la chanson qui donne son nom au disque. Le chanteur n'est pas convaincu par le morceau créé à Los Angeles. Trop californien, dit-il. Une nouvelle version est gravée à New York. C'est celle-ci qui sert de piste d'ouverture.
Il faut me garder et m'emporter. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Je prendrai pas trop de place, promis, craché, juré. Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Cherchez le cimetière des éléphants.
Avec son mythique solo de saxophone, Le Cimetière des éléphants, la chanson préférée d'Eddy Mitchell, c'est lui qui le dit et vous la retrouvez sur cette nouvelle intégrale d'Eddy Mitchell Acte 2 1980-2020. Le coffret sort aujourd'hui.
Merci beaucoup Ombline. Restez avec nous dans un instant, votre matinale se poursuit avec un immense fan d'Eddy Mitchell, Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, on vous souhaite un excellent vendredi matin en compagnie maintenant de Dimitri Pavlenko.
Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Bon, on va raconter un peu les off aux auditeurs.
Oh, ce matin était épique.
Je vous ai vu courir dans les couloirs d'Europe 1 ce matin.
Oui, c'était aussi rock'n'roll qu'Eddy Mitchell.
Ah, voilà. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a deux studios très bien équipés, mais ils sont très éloignés de l'un de l'autre. Donc quand il y en a un qui plante, il faut retourner sur l'autre et c'est pas tout prêt.
Voilà, et on n'a rien entendu, à peine essoufflé. On voit les sportifs quand même.
Ombline nous a quand même parlé pendant 2 minutes du CBD.
Voilà. Je suis ravie.
Ah d'accord, ouais, mais c'est peut-être ça.
Mais c'était très intéressant.
C'est leur secret.
Et ben ça détend, ça met à l'aise.
Ça détend.
Ça fait passer le stress. Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous dans Europe Matin.